Voici une question dont la réponse est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui rejette le salut de Jésus-Christ? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, aujourd'hui on ouvre un livre de la parole de Dieu qui est bien riche. Et c'est l'Épître aux Hébreux. Je suis certaine que vous allez le constater vous-même, alors que ce livre répondra aux questions que voici. Qui est le véritable auteur de l'Épître aux Hébreux? Est-ce qu'on peut mettre une date sur la rédaction de cette épître? Qu'est-ce qu'elle démontre concernant la foi chrétienne? Quelles sont les circonstances qui entourent cette épître? Quels en sont les buts? Est-ce que les croyants québécois d'aujourd'hui peuvent vivre la même chose que les gens décrits dans l'Épître aux Hébreux? La Bible nous invite-t-elle à changer de religion? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui rejette le moyen de salut que Dieu lui propose en Jésus-Christ? Est-ce que la vérité est relative? Demeurez à l'écoute. On est sur le point de recevoir tout un enseignement par la bouche du pasteur Régent Joly, alors qu'il utilisera l'Épître aux Hébreux pour répondre à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu vas répondre à nos questions une fois de plus aujourd'hui. Tu es tellement bon envers nous. Tu veux qu'on en connaisse de plus en plus à ton sujet, qu'on sache ce qui te plaît. Alors touche nos cœurs par ta merveilleuse parole aujourd'hui. Transforme nos vies. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du livre de Daniel. Dans ce livre, nous avons vu que Dieu s'est manifesté comme étant le Dieu souverain sur toutes les nations après que son peuple est allé en captivité. Les nations païennes auraient pu dire que le Dieu des Juifs n'était pas meilleur que les autres dieux. Alors, Dieu a sauvé les trois amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Il a parlé à Nebuchadnezzar par des songes que seul Daniel a pu expliquer. Il a écrit sur le mur lors du festin de Belshazzar. Tout ceci a conduit à la conversion de Nebuchadnezzar, le roi babylonien qui a conduit les Juifs en captivité. Sous Darius, Daniel a été sauvé de la fosse aux lions. Et Darius, le premier roi des Mèdes, après la chute de Babylone, s'est aussi converti. Ces deux rois ont interdit que l'on parle en mal du Dieu de Daniel. Daniel aussi a eu des visions. Par là encore, Dieu a montré sa souveraineté. Ces visions révélaient en détail les événements historiques qui se produiraient après la chute de l'Empire babylonien et de l'Empire perse. Non seulement avons-nous vu la période intertestamentaire décrite avec exactitude, mais les événements de la 70e semaine de la vision de Daniel ont été expliqués. Cette 70e semaine est la période de la grande tribulation qui suivra l'enlèvement de l'Église. Dans la deuxième moitié de la grande tribulation, l'Antéchrist montrera ses vraies couleurs alors qu'il sera devenu un dictateur mondial. La grande tribulation durera 7 ans et à la fin, le Seigneur Jésus reviendra établir son règne millénaire. Les croyants de l'Ancien Testament ressusciteront à ce moment-là. Aujourd'hui, nous débutons l'étude d'un nouveau livre, l'Épître aux Hébreux. En fait, nous ne ferons que l'introduire. Si vous n'en avez pas commencé la lecture, je vous invite à le faire d'ici la prochaine émission. Avec l'Évangile selon Jean et l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux est considéré l'un des livres les plus riches de la Bible. J. Vernon McGee, le prédicateur, dont nous traduisons et adaptons les textes, le classe en tête sur un pied d'égalité avec l'Épître de Paul adressée aux Romains. Qui est le véritable auteur de l'Épître aux Hébreux? L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas identifié dans le texte. La date de rédaction et l'auteur de l'épître demeurent incertains. Des érudits affirment que l'apôtre Paul est l'auteur de l'Épître. D'autres pensent que c'est quelqu'un d'autre. Les pères de l'Église, les chefs religieux, après le départ des apôtres, étaient divisés sur la question. J. Vernon McGee se range dans le camp de ceux qui pensent que c'est Paul. Selon l'analyse du livre de Thomson, sur le logiciel La Bible Online, le poids de l'opinion paraît favoriser Paul comme auteur. En fait, le véritable auteur de l'Épître est Dieu, car elle est inspirée du Saint-Esprit. Qui est l'auteur humain est une question moins importante. C'est l'origine divine du texte qui lui donne toute son importance, et c'est pour cela qu'il fait partie de la Bible ou du canon de l'Écriture. L'auteur humain de l'Épître l'a écrite lorsqu'il était en Italie, Hébreux chapitre 13, verset 24, et il était un compagnon de Timothée, Hébreux 13, verset 23. Ce sont deux arguments en faveur de la théorie que l'apôtre Paul est l'auteur de l'Épître. Nous pouvons ajouter à cela le fait que des tournures de phrases et des expressions sont semblables à ceux des Épîtres de l'apôtre Paul. Quelle est la date possible pour la rédaction de l'Épître? Certains érudits proposent une date tardive pour la rédaction de l'Épître, une date pouvant aller de l'an 85 à l'an 96, après Jésus-Christ. Cependant, si nous lisons le texte de l'Épître attentivement, il semble que le temple n'avait pas encore été détruit. L'Épître doit donc avoir été rédigée avant 70, après Jésus-Christ, l'année de la destruction de Jérusalem. Puisqu'elle a été rédigée après la libération de Timothée, elle doit l'avoir été peu de temps avant la destruction de Jérusalem et du Temple, soit environ l'an 68 après Jésus-Christ. L'analyse de Thomson du livre de l'Épître aux Hébreux propose ceci comme but de l'Épître. L'Épître était apparemment écrite essentiellement pour des chrétiens d'origine juive. Ces convertis couraient sans cesse le risque de retomber dans le judaïsme, ou tout au moins d'attacher trop d'importance au respect des rites. Le but doctrinal principal de l'auteur était de démontrer la gloire transcendante de la Nouvelle Alliance par rapport à celle de l'Ancienne. Quelle est la différence entre l'Épître aux Romains et l'Épître aux Hébreux? L'Épître aux Romains démontre la nécessité de la foi chrétienne, et l'Épître aux Hébreux démontre sa supériorité. Cette pensée se trouve tout le long de l'Épître, alors que les mots « parfait », « supérieur » et « meilleur » reviennent souvent dans le texte. L'Épître aux Hébreux nous dit que la loi était bonne, mais que la grâce que nous avons en Jésus-Christ est de loin meilleure. La Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancienne. La gloire à venir sera aussi la meilleure. Cet Épître, pour nous faire voir la meilleure Alliance, porte nos regards vers Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Nous devons considérer le Seigneur Jésus. Et un autre verset répète cette même invitation. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreux, chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux établit? Cet épître établit la supériorité de Jésus-Christ. Il est supérieur aux prophètes et aux anges. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est supérieur à Moïse, qui était un serviteur dans la maison alors que Jésus est un fils dans cette même maison. Jésus-Christ est supérieur à Josué. Son sacerdoce est supérieur à celui des prêtres lévitiques. Il s'est offert lui-même pour les péchés, une fois pour toutes. Son sacerdoce n'est donc pas transmissible. Le Seigneur Jésus est un prêtre qui a pénétré dans le sanctuaire céleste. Il a scellé une meilleure alliance par son sang et il est le prêtre parfait. Cette nouvelle alliance est fondée sur de meilleures promesses. Les destinataires de l'Épître aux Hébreux sont des Juifs convertis, probablement hellénistes, appartenant à un groupe spécifique. Cette épître s'adresse à des gens qui connaissent très bien les rituels de la loi mosaïque ainsi que l'Ancien Testament. Circonstances et buts de l'Épître. Le nouveau commentaire biblique, l'édition du logiciel La Bible Online, est excellent. Je vous en cite quelques extraits. Voici un premier extrait au sujet des circonstances entourant l'Épître aux Hébreux. Afin de pouvoir établir l'occasion première et le but de l'Épître, il nous faut tout d'abord apprécier les circonstances confrontant ceux pour lesquels elle fut écrite. Sur ce plan, leur condition spirituelle revêt un sens beaucoup plus important que leur localisation géographique. Pour la connaître, nous dépendons entièrement des allusions de l'Épître elle-même. L'auteur établit un net contraste entre la position dans laquelle se trouvent ses lecteurs et leur situation antérieure, entre ce qu'ils devraient être et le danger vers lequel ils semblent glisser. Ces chrétiens-là sont nonchalants. Chapitre 5, verset 11. Chapitre 6, verset 12. Ils sont découragés. Chapitre 12, verset 3 et 12. Ils ont perdu leur enthousiasme initial pour la foi. Chapitre 3, verset 6 et 14. Chapitre 10, verset 23 et 35. Ils ne se sont pas attachés à croître ou à progresser. Et grave est leur déficience dans la compréhension et le discernement spirituel. Chapitre 5, verset 12 à 14. Ils cessent d'assister au culte chrétien. Chapitre 10, verset 25. Et de soutenir loyalement leur conducteur spirituel. Chapitre 13, verset 17. Ils ont besoin d'une exhortation renouvelée à imiter la foi de ceux qui les ont précédés. Chapitre 13, verset 7. Le nouveau commentaire biblique explique pourquoi l'auteur met l'accent sur Jésus, le Fils de Dieu. Je cite. Que ce fut le judaïsme qui les attira à nouveau de préférence au christianisme paraît confirmé par la façon manifeste dont l'auteur, dès le début, s'efforce de démontrer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Pour cela, il met surtout en avant l'excellence primordiale de Jésus, le Fils de Dieu, comparé aux prophètes et aux anges, aux chefs et aux grands prêtres en fonction dans le régime ancien. Ainsi montre-t-il non seulement que le vieil ordre était imparfait en provisoire, mais que le christianisme apporte la perfection, chapitre 7, verset 19, et une perfection éternelle, chapitre 5, verset 9, chapitre 9, verset 12 et 15, et chapitre 13, verset 20. Finalement, le nouveau commentaire biblique propose quatre buts pour cet épître exceptionnellement riche. Le but de l'auteur, par conséquent, est de rendre ses lecteurs pleinement conscients, premièrement, de la révélation stupéfiante et du salut donné aux hommes par Dieu en Christ. Deuxièmement, du caractère vraiment céleste et éternel des bénédictions offertes ainsi gratuitement pour que la foi se les approprie. Troisièmement, du rôle de la souffrance et de l'épreuve patiemment supportée par la foi pendant notre pèlerinage actuel vers le but fixé par Dieu, tel que le montre l'expérience et l'œuvre de l'auteur de notre salut, et ce, par la discipline à laquelle Dieu soumet tous ses enfants. Quatrièmement, du jugement terrifiant qui doit tomber sur quiconque, connaissant tout cela, le rejette. Après s'être efforcé de les rendre conscients de ces choses, l'auteur a ensuite pour but de les pousser à agir en conformité avec son enseignement. Tous ces buts sont repris tout au long de l'Épître, en utilisant successivement l'exposition raisonnée, l'exhortation présente et l'avertissement solennel. Une situation parallèle à la nôtre. Jetons un autre coup d'œil sur l'arrière-plan et les thèmes de l'Épître, mais cette fois-ci à travers l'introduction du livre du commentaire biblique du disciple de William MacDonald. La manière que l'auteur présente le sujet correspond bien à ce qu'un Québécois ou tout francophone peut éprouver, car en se convertissant, il passe d'une appartenance à la majorité à une appartenance à une minorité. Je cite un extrait du texte de MacDonald. D'une manière générale, l'Épître aux Hébreux traite de la grande lutte entraînée par le passage d'un système religieux à un autre. Il y a l'affrontement, le déchirement violent de liens anciens, les stress et les tensions de la séparation, ainsi que les pressions considérables exercées par le système antérieur pour récupérer ses anciens adeptes. Mais dans cet épître, le problème ne résidait pas seulement dans le fait de quitter un système religieux pour un autre de même valeur. Au contraire, il s'agissait de quitter le judaïsme pour Christ. Comme l'auteur le montre, il s'agissait d'échanger des ombres contre l'essentiel, des rites extérieurs contre la réalité spirituelle, le passager contre le permanent, le relatif contre l'absolu, en bref, le bon contre le meilleur. Ce problème impliquait aussi le fait d'échanger la popularité contre l'impopularité, l'appartenance à la majorité contre l'appartenance à la minorité, et l'expérience d'opprimer autrui à celle d'être opprimé. Cette situation entraîna de sérieux problèmes. Lorsqu'une personne abandonne sa religion, le catholicisme en général au Québec, pour suivre la personne de Jésus-Christ, qui, lui, n'est pas une religion, cela provoque un déchirement profond. La famille immédiate et la parenté ne comprennent pas toujours. Certains ont été rejetés par leur famille et leur parenté. Une personne devient impopulaire auprès des siens. Dans certains pays, les groupes religieux minoritaires sont opprimés et persécutés, surtout dans une région où des conflits ethniques pour le pouvoir et le contrôle sont aussi perçus comme une guerre de religion. Nous ne vivons pas une telle situation au Québec, mais nous connaissons des cas de croyants qui ont été opprimés par leur famille après être venus à Jésus-Christ. Si vous subissez présentement une forme d'oppression ou de persécution, je vous invite à lire l'Épître aux Hébreux. L'Épître s'adresse au bon grain et à l'ivraie. Dans l'Église, il y a toujours eu du blé de l'ivraie. Le Seigneur Jésus a enseigné cela au moyen d'une parabole que nous pouvons lire au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. C'était le cas dans ce groupe de chrétiens d'origine juive. Certains avaient vraiment été touchés par le message de l'Évangile et ils s'étaient convertis à Jésus-Christ. Notez que la Bible nous invite toujours à venir à une personne, Jésus-Christ, et non à une religion. D'autres avaient été témoins de miracles et ils avaient vu des gens qu'ils connaissaient être entièrement transformés par la grâce de Dieu. Ils voyaient l'amour qu'il y avait entre les chrétiens. Ils avaient donc fait profession de foi et ils s'étaient joints à l'Église. Cependant, ils n'avaient pas véritablement donné leur cœur au Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas nés spirituellement. Le Saint-Esprit ne les avait pas régénérés. Ceux-là sont livrés. L'Épître aux Hébreux s'adresse aux croyants, le bon grain, et à l'ivraie, qui sont les hypocrites. Elle ne s'adresse pas directement à ceux qui ont entendu l'Évangile et qui l'ont simplement rejeté, à ceux qui n'ont rien voulu savoir de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Si l'on rejette le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre moyen de salut. La persécution pouvait décourager les véritables croyants et parfois les conduire au désespoir. L'Épître aux Hébreux les encourage. Par contre, elle avertit les chrétiens qui le sont de non seulement. Ceux-ci risquent de retourner à leur ancienne religion pour échapper à l'oppression et à la persécution. L'auteur de l'Épître leur rappelle que s'ils rejettent définitivement le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il n'y a aucune autre possibilité d'être sauvé. Le Seigneur Jésus est le chemin, et nul ne vient au Père que par lui. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean, dans son Évangile, chapitre 14, verset 6. L'Épître contient de nombreux avertissements et plusieurs mises en garde. Le message de l'Épître est encore très actuel. De nombreux chrétiens sont tentés de retourner dans le péché, ou encore de laisser leur assemblée pour diverses raisons. L'Épître leur rappelle la réalité des bénédictions spirituelles et de la gloire éternelle qui attend les chrétiens fidèles. Une mise en garde. Mes amis, à la prochaine émission, nous entreprenons l'étude d'un des livres de la Bible qui est le plus riche. Ce livre révèle la gloire du Seigneur Jésus et il explique comment Dieu sauve les pécheurs. Nous voyons le Seigneur Jésus dans son rôle de grand prêtre mieux que dans les autres épîtres. Mes amis, il n'y a qu'un moyen de salut, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu à qui nous puissions revenir. S'il y avait plusieurs dieux, ce qui n'est pas le cas, chaque dieu pourrait décider les conditions auxquelles il accepterait une personne auprès de lui pour l'éternité. Cependant, il y a un seul Dieu, et il est saint et juste. Alors, il y a un seul moyen de salut. Ce salut, il est en Jésus-Christ, qui a accepté d'être puni pour nos péchés, qui a donné sa vie en rançon pour nous. Ainsi, Dieu peut nous pardonner et nous recevoir, puisque la peine de tous nos péchés a été payée. Cet épître, l'Épître aux Hébreux, explique beaucoup de choses au sujet de ce merveilleux salut. C'est pourquoi je désire reprendre une mise en garde de l'Épître aux Hébreux. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux, chapitre 6, les versets 4 à 6. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux, chapitre 10, versets 26 et 27. Il y a un seul Dieu et une seule vérité. Deux énoncés contradictoires ne peuvent pas être tous les deux vrais. Lorsque vous entendrez cette vérité en étudiant cet épître, vous aurez un choix à faire. Accepter ou rejeter son message, la vérité. Vous seul pouvez faire ce choix. Personne ne peut le faire pour vous. Par contre, si vous rejetez le moyen de salut que Dieu vous propose en Jésus-Christ, vous refusez de prendre l'unique chemin qui conduit au ciel. Il n'y aura pas d'autre chemin ou d'autre porte pour entrer au ciel. Si vous persistez dans votre refus, vous ne pourrez plus être renouvelé ou ramené à la repentance. Cependant, vous pouvez toujours revenir sur vos pas et prendre le bon chemin, l'unique chemin qui est la personne de Jésus-Christ. La vérité n'est pas relative. Le reproche que l'on entend souvent à la suite d'une prédication, d'une présentation de la personne de Jésus-Christ par un conférencier au cours d'une activité chrétienne, c'est que nous affirmons qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. On nous reproche d'exclure toutes les autres voies. En fait, si nous prêchons qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est parce que Dieu nous a dit qu'il n'y en a pas d'autre. Sa parole dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Aujourd'hui, on enseigne que ce qui est bien et ce qui est mal est fonction de la culture dans laquelle nous nous trouvons. Ou encore, quelque chose est bien ou mal pour moi selon qu'il me rend heureux ou non. Ou encore, ce qui est bien ou mal dépend des circonstances et de mon environnement. Une action peut être considérée un geste d'amour dans certaines circonstances et un crime dans d'autres. Par exemple, si je tue mon voisin pour lui voler ses biens, c'est un crime grave. Si j'empoisonne un parent âgé qui souffre considérablement à cause d'une maladie, je pose un geste d'amour car ce parent n'avait plus une bonne qualité de vie. Tout système philosophique sans Dieu ne peut que proposer des valeurs qui sont relatives en fonction de la culture, de mes sentiments ou des circonstances. Mais les valeurs morales ne sont pas relatives. Elles sont déterminées par Dieu qui est saint, juste et immuable. Il a tout créé et tout lui appartient. C'est dans sa parole qu'il nous a révélé ce qui est bien et ce qui est mal. C'est dans sa parole qu'il indique la voie pour obtenir le pardon de nos péchés. Et c'est la seule et unique vérité. Il y a un seul Dieu et une seule vérité. Les deux sont immuables et éternels. Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Mes amis, nous avons besoin d'une vérité absolue, bien ancrée dans la parole de Dieu. Et elle se trouve dans la Bible. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2.
Merci, Régent. Tu as mentionné quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé des souvenirs que je pourrais qualifier comme étant aigre-doux. Mes amis, permettez que je vous explique. Je vous ai souvent parlé de ma conversion qui a eu lieu avec fracas le 6 août 1977. Du jour au lendemain, je n'étais plus la même. Je venais de naître de nouveau. Et pour certaines personnes, ce changement se fait en toute douceur et parfois même graduellement, il semble. Mais dans mon cas, le changement a été radical. je suis passé de pécheresse parmi les plus grands pécheurs à enfant de lumière qui détestait le péché et voulait à tout prix s'en éloigner. Je suis passé du découragement qui mène au suicide à enfant de Dieu qui allait désormais vivre éternellement avec son Dieu, premièrement sur cette terre et puis avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Je suis passé d'un manque atroce d'amour à une vie débordante de l'amour du Seigneur. Et je pourrais vous donner plein d'exemples de ce changement extraordinaire qui venait de se produire en moi, simplement parce que j'ai cru au Seigneur Jésus, celui qui avait payé la dette de mon péché en mourant sur la croix. Voilà ce qui était doux dans mes premières années de vie chrétienne. Maintenant, voici ce qui était aigre, ce qui a fait mal, mais dont je me réjouissais quand même, puisque j'ai pu participer aux souffrances de mon bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, dès que j'ai tenté de partager ma joie avec ma famille, un mur de béton s'est élevé entre eux et moi. J'étais pourtant certaine qu'ils recevraient le message de l'Évangile comme je l'avais reçu. Après tout, on était de la même famille, on avait la même mentalité. Mais j'ai vu bien vite que la mentalité n'a rien à voir avec la grâce que Dieu accorde à ceux qui croient au beau nom de Jésus-Christ. Ma famille n'était pourtant pas une famille religieuse. Je peux vous dire qu'on était des catholiques non pratiquants. Mais je n'arrivais pas à les convaincre que ma nouvelle vie ne venait pas d'une nouvelle religion, mais de la relation qui venait de se rétablir entre Dieu, mon Créateur, et moi. Mes péchés étaient pardonnés. J'étais une enfant de Dieu, une enfant de lumière. Et ma famille, plongée dans les ténèbres, ne voulait pas être éclairée. Tout comme moi, d'ailleurs, un an plus tôt, alors qu'une personne avait fait de vaines tentatives pour m'attirer à Christ. Et ça a été la séparation. Pendant environ 2 ans, je n'avais presque plus de communication avec ma famille. J'étais déchirée en dedans, mais en même temps, je me réjouissais de participer aux souffrances de Christ. Mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, toi qui vis présentement ce que j'ai vécu il y a environ 29 ans, voici ce que Jésus te dit dans le 5e chapitre de l'Évangile de Matthieu au verset 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors bon courage, mon frère, ma sœur. Il y a de belles récompenses qui t'attendent dans le royaume de Dieu, ce royaume qui est ta demeure, cet endroit où tu vas vivre dans la présence de Jésus pour l'éternité. »
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui. Toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.